Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD qui a vu l'entrée d'Angoulême. Oh mon Dieu! Oui, je viens de me faire l'entrée de la grande bulle à 10h, c'est la folie, on voit les gens qui courent avec leurs sacs et leurs petites chaises pliantes pour courir vers les dédicaces, c'est la folie, j'ai l'impression d'être un grand jour de solde, assez impressionnant, j'en suis encore épaté, j'essaierai de prendre une prise de son demain matin pour voir si je peux avoir la même chose parce que waouh. Aujourd'hui une journée encore chargée avec plein de rencontres, on va interviewer Hervé Tanquerel. Et j'espère que ça sera une super bonne interview. Après avoir affronté la cohue de l'entrée du festival un samedi matin qui est assez impressionnante, je suis avec Hervé Tanquerel. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Qui a commis les faux visages avec David B chez Futuropolis, un album qu'on vous chroniquera bientôt, qu'on a bien aimé. Les faux visages, donc, comment est-ce que tu pourrais résumer le livre ?
Mais déjà, il y a un surtitre à cet album qui est Une vie imaginaire du gang des postiches. Donc, qui dit bien ce que ça doit dire. C'est donc une histoire qui s'inspire de la véritable histoire. Véritable n'est pas forcément le mot, puisqu'en fait, on la connaît pas, la véritable histoire. Mais en tout cas, ce qu'on en sait de ce gang qui a opéré dans les années 80 dans la région parisienne, à Paris, dans la région parisienne, et qui a défrayé la chronique à son époque. Et avec David, on a décidé de faire un album qui s'inspirait largement de ça, de toute cette histoire, en gros. Voilà, donc c'est un polar.
Il y a beaucoup de personnages dans cette bande dessinée qui, en plus, sont la moitié du temps déguisés. Graphiquement, c'était un défi pour qu'on arrive vraiment à tous les repérer, à pas se paumer dans l'histoire, à pas être piégé.
Mais c'est pas tant le fait qu'ils soient nombreux, parce qu'en plus c'est vrai que c'est assez amusant, mais ça fait plusieurs albums où je me retrouve à dessiner des groupes de personnes. Alors il y a eu la communauté chez Futuropolis où c'était l'histoire d'une communauté des années 70, donc où j'avais beaucoup de personnages à dessiner. J'ai les racontars chez Sarbacane qui est une histoire de trappeur où c'est pareil, c'est une sorte de communauté avec énormément de trognes et de personnages. Et là, le gang des postiches, c'était aussi ce type de livre choral. Et moi, j'adore ça parce que c'est une des choses que je préfère en bande dessinée, c'est de camper des personnages et de les faire jouer, de trouver leurs expressions, leur manière de bouger. Et donc, ça, c'est pas un défi. Pour moi, c'est un plaisir. Enfin, c'est un défi, peut-être un plaisir aussi. Mais c'est je connais ce genre de voilà. J'étais en terrain connu. Par contre, ce qui a été un défi pour moi, c'était de faire une BD quasi contemporaine, c'est-à-dire de dessiner notamment des voitures ou des choses comme ça, ce qui n'est pas du tout mon domaine ni mon plaisir justement. Les voitures, c'est pas trop ce que j'apprécie, et surtout celles des années 80 qui sont quand même pas ce qu'il y a eu de mieux en termes de voitures. Et donc ça, oui, ça m'a posé problème. Et puis je me suis laissé enfermer dans un graphisme qui certes est intéressant, mais est extrêmement dur à tenir. Voilà, une sorte de semi-réalisme, mais qui quand même tombe plus du côté du réalisme que de la caricature. Et en plus, une pseudo ligne claire que j'avais pas du tout prévu en début d'album, hein. Ça s'est vraiment fait comme ça sur la longueur, qui demande aussi à être assez précis, et du coup on ne peut pas faire n'importe quoi avec la documentation, on peut pas tordre la perspective trop. Et ça, ouais, ça a été dur, mais c'est une bonne école pour moi.
Moi, j'ai beaucoup retrouvé la patte de David B dans le découpage. dans la façon dont c'est fait. Il est très directif dans son scénario. C'est un scénario dessiné qu'il envoie ou écrit. Et comment est-ce que c'est quoi ta marge de manœuvre autour de ce scénario?
Alors David m'envoie en fait un prédécoupage avec le nombre de cases normalement qu'il doit y avoir sur la page et puis des bonhommes patates dessinés très rapidement pour me placer les personnages, les différents personnages et toute une sorte de bouquet de bulles tout autour de ces cases pour me placer les dialogues en fait. Donc il y a une sorte quand même de pré-mise en scène qui ne m'impose pas mais qu'il me propose. À moi après de l'utiliser à mon gré, de m'en servir, soit de la respecter parce que je me rends compte qu'elle est tout à fait organisée de la bonne manière, ou alors de la transformer légèrement quand j'estime que finalement ça peut être fait d'une autre façon. Mais il n'est pas, non, David n'est pas quelqu'un de directif, il est très peu interventionniste. Extrêmement peu. D'ailleurs, ça m'a presque désarçonné au départ parce que moi, j'ai l'habitude de travailler notamment avec Gwen de Bonneval, avec qui il y a beaucoup d'échanges à ce niveau-là. Gwen est quelqu'un d'assez pointilleux et ça ne me dérange pas non plus ce regard-là, au contraire. Et c'est vrai que David laisse faire, quoi. Mais bon, l'un comme l'autre, je m'y retrouve en fait là-dessus.
Le choix des couleurs de l'album, cette bichromie qu'on a, c'était quel type d'ambiance tu voulais faire avec ça? Pourquoi ce choix-là?
Alors, la bichromie, c'était une envie de David sur cette collection en fait, c'est sur ce type d'album. Moi, j'en avais jamais fait de bichromie, mais j'étais loin de m'y opposer parce que j'aime bien les albums en bichromie en général. Et ensuite, moi, j'étais parti au tout départ sur un truc complètement à l'extrême, puisque j'avais pensé une sorte de rouge vermillon, un orange très très soutenu, et ça marchait très bien pour les scènes violentes. Mais alors, je me suis très vite rendu compte que sur 140 pages ou 150 pages, ça allait être assez insupportable pour le lecteur. Et même pour moi, je pense. Et du coup, je suis revenu à quelque chose de plus neutre. Mais moi, j'aime bien cette teinte gris-bleu. Et puis, c'est vrai que du coup, je trouve qu'elle ramène quelque chose de... Une teinte du passé. Voilà. Une ambiance un peu... le mot m'échappe, mais... Voilà, surannée, ouais, voilà, qui va bien à l'album, je crois.
C'est une collection. C'est toi qui vas travailler sur les autres albums de la collection?
Non, enfin, c'est une collection. Normalement, là-dessus, je m'avance. C'est pas moi. Je peux pas m'avancer parce que c'était David. Mais normalement, c'est une collection qui ce livre s'inscrit dans une collection que David devait ou doit diriger chez Futuro, qui s'appelle Milieu. Et qui traiterait du gangstérisme en général, quoi. Mais je ne sais pas du tout si c'est toujours le cas en fait. Non, moi je m'en occuperai pas. Après, on a des envies avec David de d'autres projets qui seraient quand même dans les projets de liés au milieu des gangsters ou en tout cas dans cette ambiance de polar ou de policier. Mais voilà, rien n'est fait là-dessus pour l'instant.
Alors, il y a un autre projet auquel tu participes qui a commencé à filtrer doucement sur le net, c'est Professeur Cyclope. Alors, à ce que j'ai réussi à comprendre, ce serait de la bande dessinée en numérique, et j'ai pas réussi à en savoir plus. S'il y a du teasing, juste pour nous appâter, qu'on ait envie de savoir ce que c'est, est-ce que tu peux en dire un peu plus?
Ce que je peux en dire, car je suis surveillé, donc j'ai pas non plus les possibilités de m'exprimer trop dessus. Mais c'est que ça va normalement. Il semblerait que ce soit une sorte de revue de bande dessinée et de fiction numérique qui se lancerait dans les temps à venir, mais je ne sais pas quand exactement. Et cette envie partirait de d'utiliser évidemment le monde, cet univers du numérique qui est encore assez vierge pour ce qui est de la bande dessinée, et de retrouver cette aventure qu'il y a pu y avoir dans la presse dans les années 60, 70, 80, avec des magazines comme Pilote ou comme Métal Hurlant. Et voilà, qu'il y ait une diversité. Réunir un maximum d'auteurs. Autour d'un projet fort, et c'est un collectif d'auteurs qui lance ça, ça prend forme petit à petit, et j'espère que ça va finir par vraiment prendre réellement une vraie belle forme.
Je sais pas si t'as commencé à bosser sur des histoires pour ça déjà. Juste une question au niveau du format, est-ce que ça va permettre de prendre en compte les possibilités du numérique, comme la page infinie, pas forcément de l'animation, parce que moi je trouve pas ça super forcément en numérique, mais est-ce que les possibilités qu'apporte le numérique vont être exploitées, ou est-ce que vous allez rester dans un format homothétique à la page pour une lecture pratique sur tablette, etc.
Non, on va évidemment essayer d'exploiter le maximum de choses. Je pense qu'il pourrait y avoir des choses, il y aura des choses qui seront du page à page, mais il y a tout ce qui est aussi le turbo média ou aussi évidemment l'utilisation de la vidéo, du son, de toutes ces choses-là qui seront comme tout toute bonne revue ou bon magazine. Il faut aussi qu'il y ait du rédactionnel, il faut qu'il y ait une vie autour des piliers ou des séries ou des choses comme ça qui pourrait y avoir dedans. Et ce qui est très intéressant avec le numérique, c'est qu'on sait que ça ne se limitera pas juste à du rédactionnel, mais qu'on peut justement utiliser énormément de choses et que tout est encore à faire. Voilà. Et donc c'est pour ça que ça nous excite tous.
En dehors du projet sur le professeur Cyclope, tu as d'autres projets en cours qui devraient sortir bientôt, ou tu es sur un travail de longue haleine qui devrait sortir d'ici un ou deux ans?
Oui, bien sûr, j'ai des projets. J'ai un projet avec le scénariste Apollo qui va se faire chez Dargo. Ça va être deux volumes de 54 pages chaque, couleur. Donc, je reviens à une bande dessinée, on va dire, de forme plus classique, mais ça faisait longtemps que j'étais pas revenu à la bande dessinée couleur, ce qui me fait assez plaisir aussi. Et avec la coloriste Isabelle Merlec, une très 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 bonne coloriste. Et c'est un péplum décalé, en fait, tout simplement, qui va se passer vraiment pendant les derniers jours de Carthage, quand elle finira par tomber aux mains des Romains et être entièrement détruite. Et c'est l'histoire d'un casse du siècle organisé par une bande de bras cassés de divers horizons, et donc il y a à la fois pas mal d'humour et d'aventure aussi. Donc c'est vraiment un péplum. Ouais, voilà.
La question que je pose à tous les auteurs, et qui n'est pas toujours facile, c'est quoi ton dernier coup de cœur en BD ?
Mon dernier coup de cœur ?
Ouais.
Ah ben si, j'avais pouvoir y répondre très facilement, ce sont les amateurs de Brecht Evans, que j'avais déjà beaucoup aimé avec Les Noceurs l'année dernière. Et là, j'ai pris un immense plaisir à lire Les Amateurs. Je suis fasciné et surpris par ce qu'il arrive à faire avec un dessin très graphique. Et la première fois que j'avais vu son travail, qui m'avait été présenté par Gwen de Bonneval, qui m'avait dit « Lis ça », je me suis dit « Oh là, oui, ça sent le bouquin de mec qui se fait plaisir graphiquement, mais qui va laisser la narration très vite de côté, et où potentiellement je risque de m'ennuyer ». Et en fait, non, c'est ça qui est surprenant avec son boulot, c'est qu'il est à la fois purement dans un travail d'image, de couleurs, tout en restant extrêmement narratif, tout en amenant des émotions impressionnantes dans ses personnages, des dialogues très bien sentis. Et donc c'est quelqu'un qui sait faire de la bande dessinée dans ce que j'en entends, moi, c'est-à-dire en respectant la narration, tout en développant un univers graphique extrêmement riche. Donc c'est mon gros coup de cœur, moi. Voilà. Même si je lis pas énormément de bandes dessinées, donc en tout cas celui, voilà.
Merci beaucoup.
De rien. J'ai oublié de dire que j'avais un autre projet, c'est le tome 3 des Racontars avec Gwen de Bonneval. Voilà, qu'on commence aussi.
La foule ne s'arrête pas de passer. Je vais rendez-vous avec Hervé Bourris. J'espère que ça va être cool. Merton m'a dit qu'il y avait un cadeau parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Voilà. Le podcast, en plus, maintenant, mon gentil logeur qui me dépose aussi, chauffeur. Les gens d'Angoulême sont vraiment des gens très sympas. M'a permis d'avoir un accès à Internet, ce qui me permet de publier les choses beaucoup plus rapidement. C'est super bien pour vous, c'est super bien pour moi. Et puis, on se retrouve plus tard. Je suis avec Hervé Bourris, l'auteur des petits livres, petit livre rock, petit livre de la 5e République, et aussi d'une BD dont on avait parlé, qu'on avait bien aimé, qui était Naguère. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Donc là, tu viens de sortir le petit livre de la 5e République, qui est un gros bouquin qui revient sur tout ce qui s'est passé depuis 58, si je me trompe pas dans les dates. Je suis nul en date. jusqu'à 2009. Il y a une façon de raconter très particulière. C'est plein de petites cases, plein de petits dessins, des petites anecdotes dans tous les sens. Ça fait vraiment très patchwork. Ça t'a semblé la meilleure façon de représenter ce qui s'était passé sur cette période-là, plutôt que d'avoir quelque chose de plus narratif?
Alors déjà, ça, c'est de 58 à 2011, hein. pas 2009, oui, c'est jusqu'à la fin de l'année dernière. En fait, moi j'avais fait mon premier livre sur ce principe-là, qui s'appelait Le Petit Livre Rock. Voilà, un patchwork chronologique, par contre, des anecdotes et de la grande et de la petite histoire du rock. J'avais fait la même chose pour les Beatles ensuite, et donc j'ai suivi le même chemin pour la politique, c'est-à-dire effectivement de raconter année par année, mais en effectivement utilisant ce principe de patchwork pour avec une hiérarchie des informations quand même. C'est du faux chaos, hein. Enfin, c'est du chaos organisé quand même. Il y a un cheminement interne dans la page, mais j'arrive quand même à mélanger la grande histoire et puis effectivement des éphémérides, les naissances, les décès. Pour moi, c'est effectivement une façon de vulgariser d'une part et de parler de sujets graves avec une forme plus légère, et plusieurs façons de lire effectivement ces livres-là, un peu picorer ou lire à la suite, quoi. Et ça m'intéresse justement, qu'il y ait de multiples façons de le lire.
Pour ce qui est de la musique, les Beatles, le rock, etc., on imagine que c'est une passion, que ça doit être un plaisir de se replonger vraiment dans tous les vieux albums que tu dois avoir. Tu dois en avoir un paquet d'ailleurs, j'imagine. Pour la politique, c'était une passion aussi ?
Oui, d'ailleurs, ça correspond à peu près à la même époque, hein. J'ai découvert le rock et la politique à la même période. Alors c'est deux passions différentes, effectivement, parce qu'il y en a qui est uniquement du plaisir, et puis de l'autre côté des choses un peu plus importantes, un peu plus graves, mais finalement on peut retrouver dans les deux domaines des points communs, comme des phrases célèbres, des photos célèbres. C'est deux mythes en fait à explorer, avec des stars aussi, des losers, finalement c'est un peu la même chose, quoi, sauf qu'il y a un peu moins de musique côté politique, effectivement.
T'as travaillé dans des genres super variés, c'est-à-dire qu'on a ces albums-là qui nous racontent quelque chose d'assez clair. T'as fait du comics, on peut le dire, hein, comics remix, de l'humour en strip, parodie de la guerre des étoiles. T'as besoin d'aller dans tous ces sens-là, de travailler sur tous les genres différents pour t'aérer l'esprit?
Ouais, exactement. Moi, je m'ennuie assez vite, donc j'ai besoin, après avoir fait un livre sur un sujet dur ou traité de façon réaliste, de faire complètement l'inverse pour le livre d'après, quoi. J'aime bien alterner comme ça. De la même manière, j'aime bien alterner des livres que je fais entièrement et juste le scénario pour le suivant, quoi. Ça permet aussi de travailler avec d'autres gens. C'est quand même un boulot solitaire, la bande dessinée. Moi, je bosse pas en atelier, par exemple, donc bosser en collaboration avec un dessinateur, c'est aussi l'occasion de confronter des choses, de progresser aussi. On progresse toujours en bossant avec quelqu'un d'autre, d'apprendre des nouvelles techniques, une nouvelle façon de raconter les histoires. Et c'est vrai que j'aime bien alterner tout ça. Mais finalement, il y a quand même des points communs, parce que je parlais de mythes tout à l'heure. À chaque fois, j'explore des mythes personnels, quoi. Ingmar qui raconte l'histoire d'un viking pleutre, c'est un peu mon Johan et Pierre-Louis à moi que je disais quand j'étais petit. La guerre des étoiles, donc c'est Star Wars, la politique, bon, bah, c'est, voilà, le rock, à chaque fois c'est des mythes personnels qui sont de la deuxième partie du XXe siècle. J'ai remarqué, c'est quand même un truc qui tourne souvent autour des années 60 à aujourd'hui. Comme Comics Romic, les super-héros, quand je disais Strange dans les années 80 quand j'étais petit, toujours un rapport avec des trucs qui m'ont intéressé à l'adolescence ou voilà, dans ma jeunesse, quoi.
Sur Nagar les étoiles, c'est plein de strips, il y a une narration qui est vraiment en petit gag, même s'il y en a certains qui suivent au niveau des chutes. Tu t'es lancé comment? Tu as trouvé l'angle d'attaque? Tu as regardé tous les films en disant « Ah, ça, je vais le reprendre », parce qu'on reprend vraiment la continuité des films dans l'ordre. On retrouve plein de gags. Déjà, j'ai l'impression que je pense qu'il faut déjà bien aimer La Guerre des Étoiles pour l'apprécier. Tu t'es maté les films et tu as cherché les gags au fur et à mesure?
Mais alors, ces trois livres-là, il y a une double narration, du coup, effectivement, parce que à la fois, je suis... Donc, c'est donc une trilogie comme la première trilogie, l'ancienne trilogie de Star Wars. Je suis effectivement la narration de chaque film, et donc c'est découpé en gags de deux demi-plans, enfin deux, je vais y arriver, deux fois deux strips par planche. Voilà, c'est compliqué, hein. Et donc effectivement, j'avais mon DVD et j'ai exactement suivi scrupuleusement chaque séquence du film pour que ça corresponde dans le livre. Mais ça va même plus loin que ça, parce que je me suis fait un plan en sachant que voilà, première séquence, il se passe ça, et la dernière qui doit correspondre à ma 46e page, donc c'est la fin. Qu'est-ce qui se passe au milieu? Après, j'ai redécoupé exactement en suivant le même rythme, en fait, que le film. Et c'est une contrainte géniale, parce que justement, on se libère complètement du récit qui existe déjà, pour le coup, et on peut se lâcher sur les gags et les personnages, quoi. Donc il y a un certain confort, parce que finalement, j'ai pas à raconter l'histoire, même si je réinterprète tout et que c'est pas exactement la même chose. C'est assez génial, parce que justement, oui, c'est une double narration, mais la narration principale existe déjà, quoi. Donc voilà.
Le petit livre rock a été upgradé et mis à jour dans la nouvelle édition. Tu comptes le remettre à jour régulièrement, de la même façon pour la 5e République, parce qu'il va se passer il se passe des choses là qui vont changer là-dessus.
Non, c'est pas prévu. Non, on l'a fait une fois parce que il a été épuisé assez vite et j'avais du matériel à mettre en plus et des modifications importantes. Il y avait dans la toute première édition notamment une bêtise, un truc qui m'embêtait vraiment, c'était je m'étais trompé pour parler de l'affaire Canta et j'avais écrit Nadine Trintignant au lieu de Marie Trintignant. Voilà, quand on a des sujets comme ça et qu'on se gourre, il faut vite changer. Puis comme j'en étais à faire des modifs, bah, je me suis emballé, il y a eu 30 pages en plus. Bon. Mais voilà, c'est arrivé une fois. Après, c'est peut-être des discussions que j'aurai avec mon éditeur, mais pour l'instant, non, ça, on va s'arrêter là. Après, pour l'auteur, c'est vrai que ça serait un confort génial de pouvoir mettre à jour tous les bouquins qu'on trouve pas parfaits, les modifier en permanence. Enfin, je sais pas si les lecteurs seraient très contents, sur ceux qui ont acheté les éditions précédentes.
Donc tu es heureux du travail de George Lucas sur Star Wars?
Non, justement, comme spectateur, pas du tout, mais je suis pas Star Wars. Mais lui doit être très content pour le coup. Mais c'est son problème, quoi.
Ta dernière découverte BD, qu'est-ce que c'était, ton coup de cœur? Je sais que c'est pas une question facile, parce qu'en tant qu'auteur, on n'a pas souvent le temps de beaucoup lire.
Tu veux dire un truc que je viens de découvrir? Ah oui, si, Gilles Rochier, TMLP, Ta mère la pute, en fait, chez Six Pieds sous Terre. Voilà, c'est un super bouquin, qui est d'ailleurs nominé à Angoulême, on va voir dimanche s'il a un prix. Et ça, c'est vraiment un bouquin très très fort, ouais, sur la banlieue, comment la banlieue a évolué des années 70 à aujourd'hui. Voilà.
Ok, bah, merci Hervé.
Merci beaucoup.
Je suis avec Benoît Socal, l'auteur très réputé pour Canardo, mais aussi pour Kra, dont le tome 2 est sorti il y a peu, et aussi pour du jeu vidéo, parce qu'il a développé La Mer Zone, Siberia, et d'autres jeux les derniers, je ne suis pas sûr de tous m'en souvenir. Bonjour Benoît.
Paradise, L'île Noyée, voilà. Il y en a eu 5.
Tu t'es lancé dans Kra, dans un graphisme, un graphisme sur lequel on ne t'attendait pas vraiment, quelque chose de beaucoup plus réaliste, qui est très proche de ce que tu avais travaillé justement au niveau de tes designs dans le jeu vidéo. C'est vrai que quand on voyait ton dessin sur Canardo, beaucoup plus simple, beaucoup plus cartoon, c'est le jeu vidéo qui t'a donné envie de te relancer dans un dessin plus réaliste?
Mais un petit peu quand même, parce que pour le jeu vidéo, j'ai fait énormément d'illustrations pour montrer aux équipes des suggestions d'ambiance, de décor, ou pour des choses très très précises, comme des objets, des lampes, des meubles, etc. Souvent, je dessinais. Donc, depuis 10 ans, 15 ans, j'avais une très grosse activité de dessin, entre guillemets, réaliste, comme ça. Et donc, c'est venu assez naturellement de dire, bon, je vais continuer dans ce style un peu réaliste, et en tout cas très éloigné de Canardo. Mais c'est vrai que c'est là la filiation. D'autre part, j'avais quand même, dans le temps, fait quelques bandes dessinées réalistes, soit en album, soit dans la revue Metal Hurlant, il y a très très longtemps.
Justement, tu es revenu sur Canardo il y a peu. T'avais envie de... C'est l'histoire qui est venue et qui t'a donné envie de revenir vers Canardo, ou alors c'est le dessin qui t'avait envie de revenir vers ce trait plus simple, plus cartoon?
C'est difficile parce que Canardo, bon, c'est aussi un travail d'équipe. Hein, donc je travaille plus seul sur Canardo et donc le dessin est un petit peu arrêté par l'inertie d'une équipe, même de deux personnes. C'est toujours difficile de faire évoluer un style comme ça. Mais j'aime bien aller de l'un à l'autre. Moi, c'est en fait ma motivation, c'est de ne pas m'ennuyer dans un domaine particulier et d'aller un peu là où va l'image et de modifier mon style en fonction de ça. J'aime pas dire voilà, j'ai un style particulier et je m'y tiens, comme c'est une espèce de marque de fabrique, ça. J'ai toujours trouvé ça un petit peu ridicule. J'ai toujours aimé changer. Alors, le fait aller vers Canardo, c'est autre chose, c'est un ton dans le dialogue, etc. Un dessin humoristique permet une autre manière d'écrire et tout ça. Si on est trop aliéné comme ça à un style, ben on est très monolithique. Bon, c'est pas mon intérêt. J'aime bien me balader dans l'image. Dans le monde de l'image, quoi.
Sur Kra, il y a au niveau de la narration, il y a cette idée du regard de l'oiseau sur ce qui se passe autour de ça. Ça crée une sorte de double narration, de double histoire, de double point de vue. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette approche-là ?
Parce que je crois que au départ, je voulais que le personnage de l'aigle ne soit pas du tout anthropomorphique. Alors évidemment, ça c'est un vœu pieux parce qu'il l'est toujours un peu. À partir du moment où il est représenté dans une bande dessinée, il l'est. Mais en tout cas, le moins possible, qu'il soit le plus proche de l'idée que je me faisais de ce qui pouvait se passer dans la tête d'un oiseau. Donc quelque chose de relativement sommaire. Et donc ce côté récitatif me paraissait la meilleure manière de le raconter. Donc des choses simples, je dois survivre, je dois manger, je dois garder mon territoire, supprimer d'éventuels et potentiels ennemis ou concurrents, des choses comme ça. C'était vraiment, il pense, struggle for life, point à la ligne.
Tu connaissais cet univers, tous les mythes sur lesquels tu as travaillé, tout l'univers qu'il y a autour de Kra, ou tu as dû te documenter beaucoup là-dessus ?
Je me suis documenté sur ce que je connaissais pas. Je me suis assez bien documenté sur tout ce qui est peuple premier, chamanisme. J'ai été voir, pas dans le nord, plutôt en Afrique du Sud et en Namibie, voir un peu comment vivaient les gens justement qui sont très proches de la nature encore. Et puis, bon, j'ai regardé beaucoup de choses. Je me suis documenté, j'ai beaucoup lu sur le chamanisme parce que j'avais très peur d'employer ça, parce que c'est un nid à fantasmes invraisemblable. Et il y a toutes les conneries possibles. Donc, avant d'aborder ça, je me suis dit, je vais un peu voir vraiment de quoi on parle dans l'affaire. Donc, voilà, et puis, bon, c'est la documentation. Toute histoire amène de la documentation. Donc, ça ne me posait pas vraiment de problème.
Ta société de jeux vidéo, c'était White Birds, il me semble, cessé d'exister. Il y a eu une perte de regain d'intérêt pour tous les jeux point and click, etc. Et tu avais beaucoup de projets BD qui étaient en parallèle avec tes jeux vidéo. Est-ce que dans tes projets actuels, c'était des idées aussi de jeux vidéo avant ?
Oui, Kra, c'était une idée de jeu vidéo. C'est-à-dire que j'étais à Montréal et j'étais en train de régler, parce que j'étais directeur artistique à l'époque chez Microïd, et j'étais en train de régler un jeu qui était totalement déréglé, où tous les personnages flottaient dans l'air, dans un paysage de montagne. Et ça m'a fait marrer, je trouvais ça agréable de se balader comme ça. Et donc je me dis, on devrait faire un simulateur de vol organique. comme il y a les simulateurs d'avions. Mais là, on incarnerait un aigle ou un oiseau, enfin, en l'occurrence un aigle, parce que je dis tant qu'à choisir, autant choisir un animal assez emblématique. Et donc j'ai commencé à faire un aigle en 3D et à le faire voler à travers des montagnes pour voir est-ce qu'ici il y avait un côté jouissif et tout. Puis j'ai commencé petit à petit à chercher des subventions, tout ça comme ça. Et j'ai pas trouvé le financement pour le faire. Puis c'était une époque où justement le jeu vidéo bougeait beaucoup. Et voilà. C'est une idée que j'ai recyclée différemment parce qu'à ce moment-là, j'ai réécrit, c'est toujours intéressant, hein, j'ai réécrit ça autrement avec un scénario, avec d'autres personnages, des gens qui ne viendraient pas dans le jeu vidéo, mais bon, là, j'ai pu les employer. Ça qui est bien avec la BD, c'est que le budget est illimité quelque part.
Les jeux que tu faisais étaient des point and click, donc des jeux d'énigmes, qui sont des jeux qui souvent, par rapport aux autres jeux vidéo, plus action, ont une histoire vraiment travaillée, une narration plus, souvent un peu moins libre, un peu plus guidée au niveau du scénaristique. Tu t'es lancé dans le point and click parce que tu aimais le genre ou parce que c'était le meilleur moyen de raconter une histoire ?
Ben, moi j'ai eu un espèce de petit flash sur Myst et des jeux comme ça. Hein. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'autres jeux. Hein. Je crois qu'il y avait Doom qui était le jeu d'action par excellence, et puis Myst. Donc moi, c'est vrai que j'aimais les climats de Myst, l'ambiance très un peu glacée comme ça, les clapotis des vagues. Pour moi, tout ça, c'était miraculeux à l'époque. Vraiment, on était quand même au début de cette technologie. Et donc le fait d'avoir un vrai scénario m'a amené plus vers le jeu d'aventure que vers le jeu d'action. J'aimais pas le côté « on tire sur tous les martiens », vous voyez pas l'intérêt, voilà. Et donc j'étais vraiment un partisan du jeu d'aventure acharné.
Tu continues à t'intéresser aux jeux vidéo ?
Et moins qu'avant, parce que d'abord je pense que le jeu d'aventure, comme je l'aimais, a un peu disparu. Je crois que les meilleurs héritiers, c'est ceux qui font Assassin's Creed. Je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'aurais aimé faire aujourd'hui. Mais voilà, bon, je pense que aujourd'hui, je pense avoir fait le tour de la question en termes de jeu d'aventure. Il faudrait que je recycle ça autrement. Peut-être que ce serait un mélange entre la BD et le jeu d'aventure et que quelque part, ça ferait une espèce d'enfant bâtard qui serait une BD numérique de demain. Voilà, ça m'intéresserait éventuellement d'y penser. Mais bon, sinon, je crois que le jeu d'aventure est un peu tombé en désuétude maintenant.
Justement, au niveau du marché du jeu vidéo et du marché de la BD, on a des points assez proches avec l'arrivée d'auteurs dans le numérique qui ont permis aux petits indépendants de plus se faire connaître. C'est beaucoup le cas dans le jeu vidéo. Dans la bande dessinée, on a des auteurs qui commencent à avoir des initiatives de création sur le média vraiment numérique. Toi, ça t'intéresserait de travailler de la bande dessinée pour le numérique ? Tu t'intéresses à ces sujets-là ?
Oui, oui et non. Pourquoi ? Oui, bien sûr, mais non, parce que pour le moment, je n'estime pas la BD numérique. C'est du papier scanné sur écran, point à la ligne. La seule petite amélioration par rapport au papier, c'est une espèce de faux tournage de page comme ça. Mais bon, c'est loin d'exploiter les possibilités de l'outil. Que ce soit de l'ordinateur, d'Internet, du multimédia comme dans le temps. Donc, je pense qu'il pourrait mêler des choses d'animation, de références par Internet, de Dieu sait quoi, qui ferait de la BD un véritable outil. Peut-être qu'il faut penser aussi sites très, très en amont et avec des sites beaucoup plus dynamiques. Moi, j'imagine que pour départir de la base de Second Life, par exemple, et en faire un vrai site de BD, et de là de partir vers la BD numérique. Donc, je suis plutôt assez ambitieux, mais en général, Je suis un peu trop parce que ça ne suit pas. Mais voilà, moi je vois un peu ça comme ça, et là c'est assez excitant. Bon, après des blogs, regardez, j'ai fait un beau dessin. Maintenant, dès qu'un dessinateur a fait un dessin, il le met sur Facebook pour que tout le monde dise « I like it ». Mais bon, ça va pas très loin, quoi.
Est-ce que tu lis encore beaucoup de BD et quel est ton dernier coup de cœur en bande dessinée ?
Mais j'en lis beaucoup, mais je j'ai pas de coup de cœur particulier, là. J'ai des plaisirs, des surprises, des petites à droite à gauche, mais bon, je peux pas dire que bon, il y ait j'en lis peut-être pas assez pour ça. Je lis surtout des bandes dessinées, ça qui me plaisent comme ça, mais c'est pas nécessairement les bonnes. Je regarde pas les critiques. Je vais à la Fnac, je regarde, je dis tiens, celle-là peut-être. Mais j'ai pas. Non, elle me. C'est assez curieux. Je pense que je suis attiré par les bandes dessinées plus vieilles, les bandes dessinées faites aujourd'hui par des jeunes. Aujourd'hui, bon, il y a des choses qui me plaisent, mais c'est ponctuel, si vous voulez. J'ai un peu décroché là.
Bah, merci beaucoup, Benoît.
Mais je vous en remercie. Il n'y a pas de problème.
Et voilà, j'ose demander une dédicace, un passe de roi en tant que journaliste à Benoît Sokal. Et je ne demande même pas pour moi, mais pour ma libraire. Voilà, c'est ça, quelle abnégation. Le soleil s'est installé à Angoulême, il fait vraiment très très beau. Je pense que c'est pour fêter ma venue, mon anniversaire, tout ça. Ils sont vraiment super sympas. Et là, je me rends donc en rendez-vous avec Mickaël Roux, qui nous a fait la BD « Jeux de gamins pirates » qui est très rigolote chez Bambou. Je suis avec Mickaël Roux pour l'interview la plus rock'n'roll du festival sur un banc gelé derrière l'hôtel de ville où il fait froid, il y a du vent, nous n'avons pas le soleil et pourtant il fait beau, ce qui apparemment est quelque chose de pas très courant dans le coin. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Et nous sommes avec David, son coloriste.
David.
David, voilà, excuse-moi. Tu sais, je prononce à la Vallon, je fais David. Donc, vous avez travaillé sur Jeux de gamins pirates, une bande dessinée d'humour, de gags en une planche qui actuellement parle de pirates, qui aura un autre tome sur le western au niveau de la thématique, et qui nous montre des enfants. Bah, déjà, comment est-ce que toi, tu raconterais, tu le feras sans doute mieux que moi.
C'est rigolo, j'ai eu la même question il y a quelques minutes avec les enfants. Mais c'est quoi? Raconte-nous un peu ce que c'est. Là, j'ai fait « Ah ouais, d'accord ». Non, le principe, c'est trois enfants qui s'amusent avec rien du tout. C'est-à-dire un carton et ça devient un bateau de pirates. Ils essayent un peu de transformer la réalité pour mieux s'amuser. Et donc, le chat devient un requin. Donc après, il y a beaucoup de... Ils jouent vraiment sur l'imagination et puis sur le fait ils y croient vraiment. Enfin, ils pensent vraiment qu'ils sont des pirates, quoi. C'est ça le truc. Mais la réalité, à chaque fois... C'est pas facile pour eux, ça leur retombe dessus, quoi, que ça soit le quotidien, que ça soit la fille d'à côté. Après, il y a aussi des filles dedans, un petit peu des apparitions. Donc voilà, c'est le but de cette série, c'est vraiment de tenter de faire sourire avec des gags d'une page et en s'amusant avec trois fois rien pour les trois gamins, quoi.
Ça m'a beaucoup fait penser dans l'ambiance, moi, à l'esprit un peu qu'on pouvait avoir dans du Calvin et Hobbes, avec justement, on s'amuse avec pas grand chose, à toute cette BD un peu jeunesse de strip à l'américaine. C'est des influences fortes.
Alors moi, je sais que j'aime beaucoup effectivement Calvin et Hobbes, mais ça n'a pas été dans mes influences. C'est les gens, surtout après avoir lu, qui ont donné un petit peu cette orientation-là, qui fait même très très plaisir, parce que c'est une grosse grosse référence quand même. Mais j'ai pas de référence particulière sur quand j'écris des gags. Ce que j'essaye, c'est que ça me fasse marrer. Donc voilà, si ça me fait sourire, je la fais, sinon je la fais pas, quoi. Donc c'est un peu mon propre avis qui va faire que je vais décider si ça va passer ou pas, quoi.
David, le travail de la couleur sur une BD jeunesse, c'est un travail particulier. Tu dois trouver une palette spéciale ou tu préfères te concentrer sur l'univers de l'auteur et trouver quelque chose qui va plus se rapprocher. C'est-à-dire, en gros, tu travailles plus par rapport au dessin de l'auteur ou par rapport au public visé qui est des enfants ?
Alors, effectivement, vu que c'est des enfants, on a un petit peu des contraintes, notamment avec l'éditeur, là, où il fallait pas aller trop dans des ambiances un peu psychédéliques. Voilà, moi je travaille avec Mickaël en fait depuis pas mal d'années maintenant, on a l'habitude de travailler ensemble, donc on se met un peu d'accord assez rapidement sur les ambiances de départ, et puis ensuite c'est une affaire qui roule, je veux dire. Mais c'est vraiment une série sur laquelle j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Ouais. Je me suis beaucoup attaché à ces petits gamins en fait, à la longue. Le but c'était de faire quelque chose d'assez frais quand même au niveau des couleurs. Je pense apparemment tout le monde est content au final.
Tu vas revoir la palette pour le tome suivant au niveau des cow-boys. Tu changes le ton, parce que bon, c'est vrai que quand on pense cow-boy, on pense à des tons plus ocre, plus le désert, etc.
Oui, je suis reparti. Mickaël, ouais, on en a pas tellement parlé finalement, mais oui, je suis parti plus sur des tons, ouais, plus ocre effectivement, plus qu'ils s'imaginent dans le désert, dans les contrées inhospitalières. Donc, je suis parti plus sur ces tons-là. Après, je garde un petit peu les mêmes tons pour les personnages, au niveau des vêtements, puisque là ils changent, ils sont en cow-boy, mais je reprends un petit peu, je fais un petit peu des petits rappels par rapport au premier tome. Et voilà, donc après, toujours dans un petit peu dans la même ambiance, sinon, que le précédent, ouais. Moins de verdure, pas de mer, mais plus désertique, ouais.
Le fait de changer d'univers dès le deuxième tome, c'était parce que tu avais peur de tourner en rond avec le thème des pirates ?
Alors, pas forcément, c'est que c'était voulu dès le début sur la série, c'était d'aborder plusieurs thèmes. C'est-à-dire que quand on était gamin, à quoi on pouvait jouer ? Et donc, c'était de partir sur vraiment tous les thèmes à chaque fois. Alors ça, un avantage, c'est qu'à chaque album, finalement, on va visiter un univers différent. Donc, c'est très riche. Mais après, voilà, il ne faut pas tomber dans la facilité du thème. C'est-à-dire qu'il faut chercher aussi des gags qui ne tombent pas sous le sens tout de suite. Donc, que si on lance une série où on avait fait plusieurs tomes sur les pirates, ça nous semblait, après, on pouvait plus développer les choses. Donc là, on est vraiment, il faut être tout de suite tapé juste sur un tome. Alors, on ne dit pas que peut-être que si cette série fonctionne, au tome 5, on refasse un tome sur les pirates. Ça, c'est... Voilà, si ça fonctionne bien, ça peut être aussi revenir sur ce jeu-là. Donc, tout est ouvert.
Oui, parce que j'imagine qu'au bout d'un moment, les thèmes vont être limités. Il y a pas... si la série marche super bien, c'est vrai qu'au 15e tome, va falloir trouver un truc.
Et on a déjà des infos. Hein. Non, le tome 3 serait a priori les chevaliers. Donc, après, j'ai pas mal d'envie. Après, il faut qu'on en parle avec Olivier de Sulpice, mais il y a des possibilités, les aventuriers. Enfin, après, il y a vraiment, je pense qu'on voilà, il y a, ça, on va pas se projeter aussi loin pour le moment, mais ça fait pas peur. Je pense qu'on peut trouver des thématiques assez rigolotes quand même.
Tu comptes faire évoluer les personnages, les relations qu'il y a entre eux? Bon, j'imagine qu'ils vont rester enfants, sinon ça marche plus. Mais les relations qu'il y a entre eux, le chef va-t-il rester le chef avec son grand chapeau? Est-ce que va y avoir un petit peu d'évolution dans l'univers?
C'est vrai que ça va évoluer déjà rien que dans le tome 2 avec les cow-boys, il y a les Indiens. Donc il va falloir partager les déguisements. Donc à un moment donné, forcément, il va y avoir un petit peu des luttes, un petit peu de pouvoir, comme tu disais. Et dans le tome 2, je regrette de ne pas l'avoir mis dans le tome 1, c'est qu'il y a un personnage qui va intervenir régulièrement. C'est une petite fille, mais une petite fille qui est beaucoup plus mûre que ces trois garçons et qui va les ramener souvent à une réalité. Et elle va bien se foutre de leur tronche finalement, donc c'est un personnage qui est assez attachant et qui revient un peu boum comme ça ponctuellement et qui est très très direct.
Dans la collection Bambou, au niveau du dessin, on a beaucoup de dessins très franco-belges, gros-nez, classiques. Je trouve que ton dessin sort un peu, je sais pas si tu travailles au bic, mais on a l'impression qu'il y a ce ton un petit peu plus crade, tu vois, au niveau du trait, qui te donne une dynamique un peu différente. Ça t'a surpris de pouvoir faire ce projet alors que t'es pas dans le style maison?
C'est vrai que c'est sûr. Enfin, on a essayé d'arrondir un peu le trait par rapport aux premières versions qui étaient, effectivement, on pourrait parler un petit peu plus trash, graphiquement en parlant.
C'est son d'or grande.
Ouais. Mais C'était quoi la question?
Est-ce que tu étais surpris d'avoir réussi à signer chez Bambou avec, en étant un petit peu en dehors du style classique de ce qu'ils font
Surpris, c'est vrai que quand on voit les collections qu'ils avaient auparavant, c'est vrai que ça dénote un petit peu, mais c'est très plaisant justement que des éditeurs ouvrent aussi des portes à des graphismes un peu différents pour montrer aussi qu'ils sont pas capables de faire que dans cet état d'esprit-là, qu'ils peuvent aussi ouvrir sur d'autres horizons, quoi. Donc c'est super sympa, ouais.
Bon, maintenant, c'est quoi ton truc avec les pirates? Le nombre de séries de pirates que tu as fait?
C'est vrai que j'ai réfléchi à ça, mais je sais pas, parce que moi, les pirates, ça me passionne pas plus que ça. Non, je crois que c'est plus la tête de mort qui me passionne.
Qui est toujours sur les chapeaux, ouais. Le grand chapeau à tête de mort est un grand classique. Quel est votre dernier coup de cœur en bande dessinée?
À toi de répondre d'abord.
La question qui tue, là. Dernier coup de cœur. Ah bah si, là, ouais, je suis en train de dire Portugal de Spedrosa. Voilà. Je ne l'ai pas terminé. J'ai acheté la semaine dernière, mais là, c'est vrai que ça m'a bien captivé jusqu'à présent. J'en ai eu pas mal, hein. Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Ouais, t'as trouvé. Ah si, j'ai beaucoup aimé le dernier Atargul de Oui, Bruno, voilà. J'ai bien aimé ça. Quoi d'autre? Bon, voilà.
Beaucoup de choses.
On va demander à Mickaël maintenant qu'il a eu le temps de réfléchir.
Balance qu'un. Non, moi j'ai bien accroché Grosley de 1, 2, 3, de Cinglin et d'Aurélien Ducoudray chez Ankama, Grosserie, voilà, ça, tout ça. Donc, moi, j'ai bien accroché. Ouais. Après, pareil, je lis beaucoup de choses, et là, comme ça, ça fait 4 jours qu'on est en Angoulême, mais on n'a pas lu une BD. Alors... wow. Non, celle-ci m'a bien fait triper sur l'état d'esprit, le dessin, vraiment sympa.
Et là, on sort du kebab. Franchement, la cuisine angoumoisine ou angoumoise, je ne sais pas, je ne sais jamais. Angoumoisine, c'est vraiment la classe. Et je suis avec l'équipe du Synops Bubble Live.
Bubble Show.
Bubble Show, tu vois, déjà, je ne suis pas rodé encore.
Synops Live, Synops Bubble Show.
Vas-y, dis-le.
Donc, c'est pour le site synopslive.net et l'émission s'appellera le Synops Bubble Show.
Et donc, tiens, je suis avec Thibaut pour commencer. Alors, ton festival d'Angoulême, pour le moment, ça se passe comment? Qu'est-ce que t'as vu de sympa à voir, à faire?
Alors, moi, je suis venu surtout pour démarcher les éditeurs. Il y a des beaux stands, il y a des gens très sympas. Je tiens notamment à saluer Panini, par exemple, qui ont été très, très, très accueillants. Je suis là que depuis hier soir, j'ai pas eu le temps de trop en profiter. Je vais pas pouvoir rester non plus très longtemps. Mais je pense que c'est une bonne édition. Il y a moins de monde qu'avant apparemment, mais peut-être que c'est lié à la crise actuelle. Pourtant il fait beau en plus, je suis en train de penser. Mais voilà, moi en tout cas je suis satisfait, ça faisait une dizaine d'années que je n'étais pas venu, je suis très content.
Ouais, moins de monde qu'avant, j'ose même pas imaginer. Ouais, alors à toi, ton Angoulême?
Plutôt sympa jusque là, premier grand festival, première année à Angoulême. On est arrivé hier midi. Pardon, je suis Fitz de MDCU, excuse-moi. Premier festival, première année à Angoulême. C'est samedi et il y a du monde quand même. Les gens font la queue pour rentrer, c'est très impressionnant. Mais très bon contact jusque-là. On a rencontré des éditeurs et des gens, des pros, etc. On rencontre beaucoup de gens, c'est vraiment sympa. Et quelques news, quelques interviews en plus de fait. Donc jusque-là, positif pour tout. Et le fanboy et le pseudo-journaliste de site internet, quoi.
Allez, suivant.
Oui. Ascarco, DMDC aussi. Très bon souvenir, très très bon souvenir. J'ai beaucoup aimé. Donc moi, c'était mon premier grand festival. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant, le principe qu'il faille se balader dans toute la ville pour aller voir un peu tout ce qui se passe, que ce soit au niveau de la convention en elle-même ou plus des musées. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, quoi. Et ce que j'ai particulièrement aimé, je ne sais pas si c'est comme ça tous les ans, mais c'était vraiment que toutes les bandes dessinées sont présentes. Bon, évidemment, elles sont présentes tous les ans, mais là, ça m'a plu qu'il y ait un certain équilibre. Voilà.
Ok, bon, on a perdu les taux, c'est pas grave. En tout cas, j'en profite pour annoncer que le Synops Bubble Live, je vais y participer. Bubble Show, mais je vais pas y arriver, hein, c'est pas possible. le Synops Bubble Show, j'y serai sous la houlette de Thibaut, qui va nous donner des coups de fouet pour qu'on arrive à respecter un timing. On n'a pas l'habitude au One A Club de respecter un timing quelconque. Et on fait ça, vas-y, je te laisse l'annoncer.
Donc le Synops Bubble Show, c'est une production du site synopslive.net. Je vais te laisser tenir le micro. Donc que je suis en partenariat avec lavoixdesbulles.fr pour le One Eye Club et avec mdcu.fr. Donc ce sera une émission de web radio en live le deuxième vendredi de chaque mois. Donc ça commencera le 10 février à 21h. On vous y invite tous et on parlera de toutes les bandes dessinées, qu'elles soient franco-belges, américaines ou asiatiques. Et donc avec, entre autres, pour le One Eye Club, One Eye Pied qui sera présent en force.
Ouais, en force tout seul, mais en force quand même. Ouais. Ok, bah moi je vais continuer mon périple et essayer de me lancer dans des nouvelles interviews. À de suite. J'ai fendu la foule pour réussir à me rendre au stand d'Argo pour croiser Munuera avec qui j'avais rendez-vous. J'ai réussi à n'avoir que 3 minutes de retard, ce qui est pas mal parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir de te rencontrer. On a déjà chroniqué pas mal de trucs que tu as fait, dont surtout les Spirou, qu'on a beaucoup aimé. Enfin, moi, je les ai beaucoup aimés. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de monde.
Merci, c'est très agréable à écouter ça.
Et là, ton actualité, c'est Fraternity, c'est le tome 2 qui vient de sortir. Comment est-ce que tu décrirais ta série au niveau de ce que ça raconte?
Disons que ça correspond à un genre assez bizarre, mais qui existe déjà dans la bande dessinée, surtout dans la bande dessinée sud-américaine, la bande dessinée argentine et tout ça. Et c'est ce que j'appelle l'aventure idéologique. C'est-à-dire, c'est un récit d'aventure avec un élément fantastique dedans, ce qui c'est assez sud-américain aussi comme procédure. Le fantastique, c'est toujours en forme de métaphore à l'intérieur d'une histoire qui rajoute de la poésie, etc. Mais qu'en étant de l'aventure, porter aussi un regard idéologique sur l'histoire qu'il raconte. Donc voilà, je dirais que Fraternity, c'est une aventure idéologique.
Ton style a un peu évolué par rapport à ce que tu avais fait avant pour cette histoire-là. C'était pour coller au thème, à l'histoire, un côté un peu plus sombre, j'ai remarqué.
Bon, je pense que c'est le travail du dessinateur, c'est celui justement de trouver les bons registres graphiques qui correspondent à chaque récit. Pas chercher des récits qui correspondent à ton graphisme, mais chercher du graphisme qui correspond au récit concret que tu veux raconter. Tu vois? Donc j'essaye à m'adapter et à trouver toujours des solutions visuelles, graphiques, des solutions des dessins et des narrations visuelles, une adéquation à les genres d'histoire qu'on est en train de raconter. Donc c'était évident que pour faire cette aventure idéologique, je ne pouvais pas utiliser les mêmes outils que j'ai utilisés pour faire Spirou, qui c'est quelque chose de totalement différent. Donc j'y reste les mêmes, je les pense. Je crois que je suis dedans, visible, sous ces couches, disons, des changements apparents.
Tu travailles beaucoup avec des scénaristes. T'as pas sorti, il me semble, hein, moins que je me trompe, d'album où tu scénarisais. T'as pas eu envie d'écrire ta propre histoire à un moment?
Bah, j'ai fait des albums à moi tout seul, notamment la série Walter les loups, publiée chez Dargo. Mais il n'y a pas de scénario là-dedans. Donc on peut pas dire vraiment qu'il y a un scénario. C'est vraiment un recueil des gags, plus ou moins heureux. Pour répondre à ta question, moi, je trouve que c'est assez enrichissant de travailler avec quelqu'un d'autre quand il y a vraiment une entente intellectuelle entre les personnes qui travaillent. C'est enrichissant au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Donc, moi, je me sens assez à l'aise en travaillant avec des scénaristes, tandis qu'ils sont suffisamment flexibles, suffisamment dans ma longueur d'onde. Ça marche bien et j'adore quoi.
Donc tu as dessiné du Spirou, tu as fait Petit Boulet Bill. Quand est-ce que tu reprends Tintin?
Non, Tintin c'est pas dans mon genre. Je pense pas être dans la école et ligne claire belge à la RG ou à la Jacobs, hein. Tu vois, c'est ce genre de dessin hyper clean, hyper iconique, etc. Moi je suis plutôt franquinien dans le sens où je suis plutôt dans les nerfs du dessin, dans les, une certaine nervosité du trait, une certaine vivacité. Et je ne pourrais pas, je le pense, faire une conversion vers un style de dessin si formaté, disons, que la ligne claire traditionnelle.
Est-ce que ça t'a aidé d'avoir déjà dû te mettre d'avoir le défi de faire Spirou de devoir ensuite reprendre les personnages de Boule et Bill, même s'ils sont rajeunis, qu'il y a un peu de tapade derrière, de revenir sur des personnages iconiques quand même qui sont forts dans la culture de la BD française. Est-ce que Spirou t'a aidé à l'aborder plus tranquillement avec moins de stress?
Ouais. Déjà, je trouve que Rova, c'est peut-être le seul dessinateur de sa génération qui pouvait concurrencer Injustice Franquin. Donc, c'est le seul virtuose du dessin qui pouvait le faire. Donc, c'est à peu près ce que c'est la même école du dessin. Mais ensuite, avec Spirou, j'ai appris les grands plaisirs qu'il y a à rentrer dans un univers qui n'est pas le tien à la base, les découvrir et commencer à travailler dans cet univers. Et c'est vraiment un plaisir formidable. Donc voilà, je suis très content de faire Petit Boule et Bill.
Je vais revenir sur Spirou, parce que moi, vraiment, ton passage sur Spirou m'a marqué. Avec Jean-David Morvan, vous avez essayé, j'ai eu l'impression en tout cas, de rajeunir le personnage, de le rendre plus dynamique, plus speed, avec des codes qui venaient un peu plus du manga, de la bande dessinée américaine. Ce qui n'a pas plu aux gens qui aimaient le Spirou classique, plus franquinien, franquinesque, je sais pas comment on dit. C'est une déception que justement de ne pas avoir réussi à toucher ceux qui aimaient Spirou à la base.
Non. Je pense que tant Jean-David comme moi, on comptait tous les dés avec ses réactions, déjà assez viscérales, assez fortes. C'est qui c'est très drôle et ça montre les degrés d'affection que les gens ont pour les personnages. Mais c'est la vie. Spirou a été toujours contemporain comme personnage. Franquin, il ne faisait pas un truc nostalgique. Il faisait de la bande dessinée de son époque. Tony et Henry ont fait pareil. Et nous, on essayait aussi à faire de la bande dessinée de notre époque. Et de nos jours, on ne peut pas passer à côté des choses comme les mangas ou les comics qui formaient partie du paysage de la bande dessinée. Et on ne peut pas parler aux jeunes, je le trouve, en utilisant les mêmes codes que nos anciens ont si brillantement inventés. Parce que ça n'est pas son langage. Donc si on veut vraiment s'adresser à un nouvel lectorat, il faut utiliser tout simplement, d'une façon naturelle, sans forcer non plus, les codes qu'il utilise normalement. D'où les mangas et les comics.
Je ne sais pas si tu as remarqué, mais Tom et Jean-Ry avaient fini Spirou avec une histoire où il y avait deux Spirou. Vous avez fini Spirou dans une histoire où il y avait deux Spirou. Est-ce que c'est le truc qu'il ne faut surtout pas faire si on veut continuer la série?
Bah on verra bien qu'est-ce qu'ils font, Johan Evelman maintenant, avec son loup-garou et tout ça. Bah, savoir. Peut-être que c'est une idée récurrente qui est dans les inconsciences collectives des dessinateurs. On a toujours doublé les personnages pour faire les tiens et celui qui avait avant, ou un truc comme ça. Il n'y avait pas remarqué, mais c'est très bien beau ça.
Au niveau de tes projets, de ce que tu comptes continuer à travailler dessus, parce que tu travailles comme là sur plusieurs séries en même temps, donc Walter le Loup, Petit Boule et Bill, Fraternity, tu fais quand même trois séries en parallèle. Tu continues sur ces trois séries-là ou tu te lances sur autre chose?
Déjà, Fraternity, c'est un diptyque, c'est fini. On fait deux albums, on raconte l'histoire qu'on voulait raconter, c'est déjà fait. Donc voilà, ça c'est fini. Petit Boule et Bill, on continue. Walter aussi, je pense qu'on va continuer bientôt. J'ai continué à faire des histoires courtes pour le journal Spirou, où j'ai fait des histoires des pirates qui s'appellent les Campbells, qui j'ai m'amuse à faire. Là, j'ai écrit mes scénarios à moi-même. Et pour une fois, j'ai écrit des scénarios. C'est pas comme Walter où j'écris pas du tout. Et maintenant, je travaille aussi sur un diptyque avec Jean Dufaux, un conte fantastique assez intéressant, en même temps classique et pas du tout classique. Qui sortira vers la fin de l'année. C'est encore un diptyque, donc ça sera fini dans des albums. Et bon, c'est intéressant, quoi, aussi.
Quel est ton dernier coup de cœur en bande dessinée, la dernière BD qui t'est marquée, que tu as vraiment aimé? Parce que là, on en a plein de partout, c'est difficile.
C'est difficile à dire. Quelle est la dernière bande dessinée? Mémoire d'un guerrier, un petit format chez Gallimard ou un truc comme ça. Je me souviens plus du nom de l'auteur, pourtant. Désolé, s'il m'écoute, j'espère qu'il saura me pardonner. Mais ça s'appelle Mémoire d'un guerrier, petit format, 100 et quelques pages, couleur, assez intéressant. Ouais.
Ok, bah, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview.
Merci à vous. Je suis désolé de mon accent insouffrible et presque incompréhensible, mais bon.
C'est très très bon accent, rien à dire. J'ai fait quelques interviews en anglais et je pense qu'ils vont encore plus souffrir les auditeurs avec ça. Et me voilà de retour dans l'endroit où normalement je vais passer la moitié de mon argent. La Bulle New York avec tous les indés. Je dois me faire dédicacer mon coup d'un soir par Vendry, j'espère que je vais réussir à le choper. Je viens de faire un tour à l'espace Polar SNCF où les gens, à part lire et dormir sur une ambiance cool, avaient l'air tous très contents d'être sur place. Et puis bah maintenant, je ne sais point comment je vais continuer au festival. Demain, ce sera surtout de la visite et des expos, parce que j'ai pas vraiment eu le temps d'en faire encore. Et puis peut-être rencontrer un peu les indés et essayer de discuter un peu avec eux pour choper quelques interviews. Il y en aura sans doute un peu moins. Et puis, c'est parti pour la suite. Je sors de la représentation de Tatsumi de Eric Kou, une adaptation en partie de Une vie dans les marges qu'on a déjà chroniqué dans le One A Club. L'animation est assez surprenante, un peu saccadée, mais c'était dans le but de respecter autant que possible les dessins originaux. En plus du côté autobiographique, il y a plein de petits films, de courtes histoires qui ont été animés, de courtes histoires de Tatsumi qui ont été animées. C'est vraiment très sympa, c'est à la fois drôle, dur, touchant, c'est vraiment un très joli film. J'ai vraiment bien aimé. En plus, on peut voir le court-métrage Good Boy, donc, qui finit le film, qui était une histoire courte, qui était passée dans Le Cri qui tue, une des premières revues à passer du manga en France. C'est franchement un film bien sympa, je recommande, ça sort le 1er février. Encore une chouette journée au Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême. Donc il y a eu plein de choses très sympas, j'ai essayé de faire un petit tour pour voir la vie nocturne d'Angoulême. Mais clairement, quand on est seul, qu'on est personne, les bars, il y a une chaude ambiance, mais aller boire tout seul dans une salle bondée pour écouter un concert qui a l'air sympathique, ce n'est point évident et point sympathique, c'est un peu la loose. Donc, je me rentre tranquillement travailler, car le travail n'attend pas, et c'est pour vous, auditeurs, que je fais ce podcast. Et je vous dis donc à demain, pour une journée très indé, je vais traîner sur le stand des indépendants pour avoir un peu tout ce qui se fait, tous les trucs qui sont difficiles à trouver en général dans la bande dessinée, essayer de choper un peu les gens qui font du numérique, toutes les initiatives qu'il y a autour de ça, peut-être rencontrer les gens de Sandawe par exemple. Enfin, peut-être aussi choper l'interview de Vincent Brujas et Hervé Toulouat, que j'avais raté bêtement. Bref, un grand programme encore, et puis bien sûr, les résultats, pour savoir qui va avoir les prix, qui sera le prochain Grand Prix, qui sera la révélation, parce que c'est aussi important pour ces jeunes auteurs. Je vous dis donc, à demain pour la suite de nos aventures à Angoulême.